Une belle histoire de regard pour bien au Périgord. J'ai rencontré pour vous Marie Chaigne, une jeune femme de 26 ans, une photographe de produits. Mais quand a-t-elle eu son premier appareil photo?
Oula, je m'en souviens même pas.
C'est si loin que ça?
J'étais très jeune, ouais. Alors, quand même pas. Je pense que la première fois que j'ai demandé à mes parents un appareil photo, je devais avoir 14-15 ans. J'ai dit à maman, je veux un appareil photo pour mon anniversaire. Et donc j'ai commencé à faire un peu de photos comme ça, mais c'était plus pour mon hobby. Donc je suivais ma mère en promenade quand elle promenait les chiens. Je faisais des photos comme ça, de mes animaux.
C'était un argentique, c'était un numérique?
C'était un Canon réflexe.
Ouais.
Oui, mais c'était un petit appareil, franchement, un petit appareil qui, je pense qu'aujourd'hui, vaut plus grand-chose.
Ouais, peut-être collector, on sait jamais. Hein.
On sait jamais. Bah,
Vous êtes jeune.
Je l'ai revendu en plus. Mais ouais, et puis je prenais mes copines en photo, mais pas... Je faisais pas de la photo très artistique, quoi. C'était plus en... je voulais immortaliser des moments. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait, en fait, le commencement. Et en fait, je me suis remis dans le bain grâce à mes études. Mais du coup, ça s'est arrivé beaucoup plus tard. Parce qu'en effet, oui, je postais pas, je prenais pas des photos pour poster. Parce que bon, moi, je suis un peu la génération quand même, un peu Facebook aussi. Quand j'étais plus jeune, Instagram, c'est arrivé un peu plus tard. Et à ce moment-là, j'étais complètement dans une transition. Je me découvrais tout ça. Donc, j'étais pas du tout, mais pas du tout dans la photo. Donc ouais, non, c'était plus pour des souvenirs et... Ça remonte à très longtemps, cette époque.
Vous avez 26 ans, donc c'est...
Oui,
ça remonte pas.
Oui, c'est vrai.
C'est pas si vieux que ça.
C'était il y a 10 ans, en fait. C'était pas si vieux, au final.
Une petite décennie.
C'est ça.
Donc, entre ce moment-là, et puis, il y a eu la troisième, il y a eu le lycée. Et là, vous décidez de prendre quel chemin au niveau des études?
J'ai décidé de faire de la publicité. Alors, au début, j'ai commencé par le marketing, parce que je voulais travailler dans la com... Mais là où on habite, malheureusement, on ne voit pas trop les opportunités dans la pub ou la communication. Donc je me suis dit, je vais faire du marketing, quoi. Et moi, mon envie, c'était de créer le packaging pour des parfums.
Ok.
Voilà, c'était ça mon envie. Et donc je dis, bon allez, je fais du marketing. Et au final, je me suis dit, mais je n'aime pas du tout ce que je fais. Je n'aime pas du tout, c'est pas du tout ce que je veux faire. Et donc, je me suis renseignée sur d'autres écoles et j'ai trouvé une école, donc Sup de Pub, où ils proposent un cursus créatif.
Mm-hmm.
Donc là, c'est toujours dans... Mais là, c'est vraiment de la publicité pure et dure. Donc, on crée un concept pour une affiche. Rien à voir avec le packaging. On en fait un tout petit peu, mais c'est pas ça le point central de ce qu'on apprend, quoi. Donc, c'est là que j'ai commencé un peu à toucher à Photoshop, Illustrator... J'ai commencé à dessiner aussi parce que je dessinais pas du tout. Mes dessins, c'était des bonhommes bâtons. Donc là, j'ai appris le dessin académique. Et puis après, il y a tout ce qui est concept publicitaire, la conceptualisation. J'avais des cours d'art plastique aussi. Donc ce qu'on faisait au collège, je l'ai refait après moi dans les études supérieures. Donc c'est là que j'ai remis un peu de la pâte artistique, tout ça. Puis j'ai trop accroché, j'ai dit, mon Dieu, j'adore ce que je fais. Mais j'aimais pas la pub.
Ah.
Toujours pas.
Alors, est-ce qu'il y a un souci avec le côté commercial ou...
Exactement. Moi, c'est plus... je me suis dit, mais en fait, j'adore créer. Mais créer pour vendre... Bon, je sais pas, il y a en fait un côté un peu éthique, on va dire, qui me dérange. Bon, après, voilà, je suis une consommatrice un peu comme tout le monde, mais... La pub pure et dure, quand on travaille dans les agences, c'est vraiment, on pousse à surconsommer des choses dont on n'en a pas besoin. Mais par contre, c'est vrai que j'aimais bien un peu l'aspect où on réfléchit à un concept pour créer une image. Ça, c'était vraiment cool. Mais après, quand on avance dans les études, maintenant, il faut penser travail. On pense
bien
plus
sûr.
Rêve, art plastique, tout ça. Et donc après, j'ai fait une alternance. Enfin, j'ai fallu trouver un stage.
Et c'était où, ça?
Ça, c'était à Paris. Donc, une fois que... Alors, pardon, j'ai fait mes études à Bordeaux, jusqu'en troisième année. Et en fin de troisième année, il faut trouver un stage. Un stage de 6 mois. Donc, là, on se met tous au quai avec les gens de la classe pour dire, mais en fait, à Bordeaux, il y a zéro opportunité en communication. Et c'est vrai, il n'y avait pas beaucoup... les offres d'emploi, non, il n'y avait rien. Il y avait très, très peu de choses. Donc on s'est tous dit, bah, il faut aller à Paris, quoi. Donc on s'est tous pris la main dans la main et on est tous allés à Paris. Donc on postule sur Internet et c'est là que moi je tombe sur une offre d'emploi de retouche photo. Je dis, bon, je vais postuler au stage, on sait jamais, on verra bien. Mais j'ai postulé aussi pour des agences de pub. Mon premier entretien, c'est pour ce poste en retouche photo. Donc je dis, ok, bon, je le fais, tout se passe bien. Il me rappelle une semaine après, ok, on vous veut. Moi, je suis en mode, ok, j'ai un stage, c'est super. Et quand j'en parle à mes profs, ils me disent, c'est trop bien, mais ça n'a rien à voir avec la publicité. Je dis, oui.
Justement, c'est ce que vous cherchez.
Je dis, oui, en effet. Et tous mes copains, ils ont des super stages dans des agences, bah, Publicis, BTC. Et moi, je suis la seule à faire un truc complètement à part. Et une autre fille aussi qui a fait son stage dans un salon de tatouage. Qui est aujourd'hui tatoueuse en plus, vous voyez comme
c'est
quoi.
C'est dingue, hein, oui, ouais. ça a changé le chemin.
Exactement. Ça, ouais. Et tout se passe bien, et donc je fais mon alternance après chez eux pendant un an. Et donc c'est là où je mets vraiment, pour la première fois de ma vie, un vrai pied dans le monde de la photo, mais professionnel. Mm-hmm. Et j'ai pas tout de suite touché un appareil photo. J'étais du coup vraiment que à la retouche, donc que en post-production.
Ah, ok. Mm.
Et ça a été très très formateur. Parce que, en fait, j'ai compris quelles sont les erreurs à ne pas faire en photo pour qu'après, à la retouche, on ne subisse pas. Oui, mm. Exactement. Et j'ai pas précisé, mais c'était dans pour une maison de joaillerie. Une petite affaire familiale, mais qui faisait des bijoux dans le mariage. Ils étaient spécialisés mm. dans le mariage. Donc c'était très formateur parce que déjà de 1, c'est très exigeant. Et on était donc avec ma tutrice et moi au pôle créatif. Donc il y avait aussi ma supérieure, enfin du coup la fille des patrons. Mais elle s'occupait avec tellement de choses qu'elle pouvait pas vraiment se consacrer qu'à ça. Puis ma tutrice est partie un jour, donc j'étais toute seule. Et là j'ai commencé à toucher le boîtier. Parce qu'avant je le touchais pas, c'était qu'elle qui le faisait. Moi je faisais que la post-production. Alors on peut dire que c'était un peu redondant, mais ça ne l'était pas du tout, parce que, en fait, comme j'y connaissais, mais rien, j'ai tout appris comme ça, quoi. Genre, vraiment, c'était... mes cours de publicité m'ont servi strictement à rien pendant ces...
D'accord, vous êtes sur la suite Adobe.
Ouais, ouais. Et donc, du coup, bah, ma tutrice part, et là, je commence à toucher le boîtier pour la première fois. Et je me dis, waouh, je fais des super photos. Mais en fait, c'est parce que tout est déjà pré-réglé. L'appareil photo est déjà réglé, les lumières sont déjà posées, on fait toujours les mêmes photos parce que maintenant on sait exactement la ligne éditoriale qu'on doit suivre, donc c'est un peu toujours la même chose, quoi. Donc je me dis, mais je suis super forte. Et la réalité, c'est pas ça. Parce que quand on fait de la photo produit, il faut toujours vérifier correctement ses lumières en fonction de comment est-ce qu'on place le produit, mais peut-être qu'on en viendra ça après. Très technique, très très technique.
Et puis ça va être compliqué aussi le bijou au niveau de la lumière, comment il capte la lumière, ce qu'il va rendre sur la photo. Donc en fait, vous êtes contente de vous.
Ouais, au final ouais. Ça va, je suis ouais. quand même contente. Bah, après il y a des techniques aussi, quand on fait une photo, on pense que la photo sort comme ça, telle qu'elle, mais des fois c'est 4 ou 5 ou 6 ou 10 photos superposées sur les unes sur les autres, pour du coup arriver à ce final là.
Donc il faut plusieurs calques. Pour arriver à la photo finale.
Exactement. Voilà. Ouais, ouais.
Mais Marie, aujourd'hui, est-ce que tous les photographes bossent sur Photoshop ?
Je pense, oui.
Oui ?
Oui, oui, quand même. Après, on fonctionne tous différemment. Mais d'abord, on passe par Lightroom.
Oui.
Donc, pour faire la retouche colorimétrique. Photoshop, ça sert vraiment à nettoyer la photo. Donc, c'est-à-dire s'il y a des petits poils, de la poussière... Bah, par exemple, il y a quelque chose à cet endroit qui ne me plaît pas, bah, je l'efface. Alors après, Lightroom, ils ont maintenant l'intelligence artificielle qui fait qu'en fait, on peut le faire directement. Sauf que bah, moi, avec ma formation que j'ai eue en tant que retouche pour de la joaillerie, je faut que ça soit retouché au pixel près, sinon ça ne me convient pas.
Est-ce qu'on ne devient pas maniaque ?
Je suis déjà maniaque dans la vie, dans mon quotidien. Alors je ne vous dis pas quand je travaille, ouais. Mais c'est bien. Mm-hmm. Au final, parce que je sais où est-ce que je veux aller et ce que je veux faire.
Alors, il y a d'abord, si j'ai bien compris, l'éclat de la photo et après, donc, enlever les défauts. Alors, vous avez touché du doigt l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est une opportunité aujourd'hui ou est-ce que ça peut faire peur, se dire que ça arrive dans toutes les mains ? et qu'on peut faire n'importe quoi quand on n'a pas un regard professionnel.
Ouais, moi ça me fait peur. Personnellement, ça me fait peur. Je pense que ça va tuer le métier de photographe, mais pas à 100%. Mais je pense que oui, il y aura beaucoup de photographes qui, par exemple, la photo produit, donc ce que je fais, si dans 20 ans je change pas mon fusil d'épaule, j'aurai plus de travail. Moi je le vois comme ça parce que j'ai même des clients qui l'utilisent. Alors c'est pas 100% vrai, ça, parce que ça peut se voir en fait quand ils prennent le produit en photo, ils vont dire oui, bah, tu vas me le mettre en scène, blablabla, ils vont écrire un prompt. Sauf que le produit, c'est pas exactement le même. Ça se voit qu'il y a des défauts. Ça y ressemble très 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 fortement, mais à 80%. Les autres 20%, bon, ça se voit que le carré est pas vraiment carré comme ça, ou que le rond est pas vraiment rond comme ça. Ça ressemble pas vraiment exactement, mais voilà, on est au début de l'intelligence artificielle. Ça va encore s'améliorer, j'en suis sûre et certaine. Donc c'est très fort probable que dans 20 ans, 10 ans, même... Je dis ça, mais ça se trouve, c'est demain que ça sera fait, en fait. Que, en fait, ça respecte exactement le produit et qu'on peut exactement le mettre... Mais même sur Photoshop, hein, moi, des fois, je m'en sers. Des fois, je m'en sers quand il y a quelque chose qui me plaît pas ou j'ai oublié, bah, je sélectionne la zone, j'écris un prompt et il me le rajoute. Mais avec modération. J'aime pas trop l'utiliser parce que moi, j'aime bien les choses quand même... On respecte la nature des choses, quoi.
Alors... Pendant ce temps-là, il y a des marques qui ont changé leur fusil d'épaule. J'ai l'impression qu'il y a 2-3 ans, quand l'IA est arrivée, tout le monde l'utilisait. Hermès, qui a demandé à une illustratrice de faire sa dernière com. J'ai l'impression quelque part qu'il y a, dans le domaine du luxe, qu'on revient aux bases. Bon, ça donne de l'espoir aussi.
Mais peut-être parce que le luxe c'est authentique, donc peut-être qu'ils veulent rester dans cette chose authentique, mais peut-être que, et aussi mine de rien on va parler prix. Faire appel à un photographe ou une illustratrice, ça coûte cher. Moi des fois quand j'annonce les prix à des clients, ils me disent ah, si oui mais au mieux que je mange. Et puis le matériel que l'on a acheté ou on a investi, ça coûte, ils ne se rendent pas compte les gens, mais moi le boîtier que du coup je me suis acheté là, mais ça fait même pas un an que je l'ai, je l'ai acheté d'occasion, je l'ai acheté 5 000 euros, et encore c'est juste le boîtier nu. Il faut acheter les objectifs, les lumières, les accessoires, les fonds photos, ça coûte une blinde. Pour du papier c'est extrêmement cher, et donc tout ça, c'est pareil pour les illustrateurs. Et puis après, on paye les illustrateurs, les crayons, les papiers. Ça coûte hyper, hyper cher. Mais bon, ça, les gens, ils se rendent pas compte, malheureusement.
Je vais prendre mon smartphone et je vais faire...
Fais-le.
Oui.
Mais après, j'ai envie de leur dire, non, fais pas. Je peux le faire pour toi.
C'est vrai que c'est très ambigu. Mais il faut faire comprendre que le professionnel va faire quelque chose... d'humain, garder justement ce regard humain et pas ce regard artificiel.
C'est ça.
Et ça, le faire comprendre à sa clientèle, est-ce qu'il faut vraiment beaucoup d'arguments ou est-ce qu'elle comprend facilement ?
Alors pour le moment, j'ai eu la chance, je ne suis pas trop tombée sur des gens qui m'embêtent vraiment avec l'intelligence artificielle. Mais c'est vrai que des fois, j'ai un peu, quand on m'a dit « Oh là là, oh, t'as vu ce qu'il m'a fait, ChatGPT ?» c'est vrai, la photo elle est cool, mais après le truc c'est que ChatGPT, pour faire sa photo, il s'est inspiré d'un truc qui existe déjà. C'est l'intelligence artificielle n'invente rien, elle s'inspire des choses qui existent sur le net, sauf que ce qui est sur le net, ce qui est posté, c'est quelqu'un qui l'a fait de base. Donc oui, c'est très joli, c'est très bien, mais et en plus le produit, normalement quand on fait de la photo, quand on fait du commerce et quand on vend une photo, quand on la publie, on n'a pas le droit de mentir sur le produit. Donc comme tout à l'heure, je vous disais que ça ne ressemble pas vraiment exactement, mais ça ressemble à 80%. En fait, il faut que ça ressemble à 100% parce que sinon, ça s'appelle de la publicité mensongère, en fait.
Oui.
Et on ne peut pas faire ça. C'est interdit, c'est illégal. Donc, faut savoir aussi mettre le curseur au bon endroit, quoi. Donc, des fois, je dis bon... oui, mais... mais je leur explique pas tout ça en disant « Ouais, c'est de la publicité mensongère, mais pas jusqu'à là, parce que sinon on va se fâcher. »
Alors, on est à Paris, vous travaillez pour un joaillier, et ensuite ?
Et ensuite, je dis, ok, bon, c'est la fin de mes études, j'ai fait mon master, je vais m'arrêter, parce qu'il faut bien s'arrêter un jour. Et qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je vais chez l'employeur, ou est-ce que je suis mon employeur ? Et alors, même si j'ai adoré l'expérience, hein, j'ai pas du tout aimé être salariée. J'ai pas aimé cette expérience-là, du coup.
Parce que vous êtes dans la création et que vous aviez un regard au-dessus de votre épaule tout le temps.
Ouais.
Hein, et ça, c'est terrible quand on crée.
Exactement. Ah ouais, ouais. Ouais. Quand on, ouais, c'est ça. Et quand on crée, moi, j'aime bien aller direct au but. C'est-à-dire que, bah, en fait, quand on travaille pour quelqu'un, quand on est directement chez l'annonceur, ça va parce qu'on communique directement avec lui, mais quand on n'est pas chez l'annonceur, j'aurais pu aller dans une agence en tant que photographe. Sauf que quand on, voilà, lui va nous dire, le client va dire blanc, et peut-être qu'après on va nous retranscrire blanc-gris, et puis après moi je vais faire un blanc-gris, sauf que lui il avait dit blanc. Donc non, c'est pas... Non, je préfère qu'on me dise exactement ce que l'on veut, comme ça moi je...
Un cahier des charges au départ.
Exactement. Et puis, non, je préfère directement être en lien avec le client. Je trouve que, moi, je préfère...
Le ressenti n'est pas le même.
Hein. Ouais, ouais, ouais.
On n'a pas passé plusieurs filtres.
C'est ça. On en apprend beaucoup plus, même sur nous. Moi, j'ai beaucoup appris, hein, parce que là, ça fait même pas 2 ans hein, que je suis à mon compte. Ah, la première année, je vais pas être vulgaire, mais c'était compliqué. Hein.
Donc, la première année sur Paris ou...
Sur Paris, ouais,
sur
ouais.
Paris. Mmh. Vous avez vite trouvé un client.
Ouais, j'ai vite trouvé. Et du coup, c'était compliqué au début. C'était compliqué, plus, bah, donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand je travaillais en joaillerie, mes photos, j'ai trouvé incroyable parce que le set était déjà prêt. Là, nouvelle chose, nouvelle ambiance, nouveau client, nouveau boîtier aussi. Parce que j'avais un autre appareil complètement différent de ce qu'il y avait à l'entreprise. Et,
nouvelle adaptation.
Oh là là, oh oui, oh là là, mes premières photos, je ne vous les montrerai pas, je ne les montrerai jamais à personne. Parce que non, c'était pas réussi, les lumières, ça allait pas, non, c'était... J'ai beaucoup appris, hein,
je me suis... Et là, c'était quoi, les cosmétiques ?
Ouais, la cosmétique, oui, cosmétique, et ben, j'ai fait vraiment que ça à Paris, hein. J'ai fait que de la cosmétique, hein. Franchement, j'en garde un bon et mauvais souvenir, on va dire.
Vous jouez joliment sur les ombres.
Merci. Ah, ça me fait plaisir.
Oui, non. Puis ce côté très, très naturel, très propre. Vous disiez tout à l'heure, vous étiez maniaque. Et oui, c'est ça. Voilà, il y a quelque chose de la pureté. De toute façon, on va voir ces photos dans cet article. Donc, les cosmétiques, et puis vous êtes à Paris, mais plus envie de rester à Paris.
Non.
Parce que vous êtes périgourdine.
Je suis périgourdine,
vous
exactement.
Êtes née à Périgueux.
Non, je suis née à Royan.
C'est à côté.
Charente-Maritime. Je suis très très attachée à la Charente-Maritime également. Je me suis considérée entre que Charentaise et Périgourdine, les deux en même temps.
Okay. Oui, du coup. Donc qu'est-ce qui se passe à Paris ?
Très mal-être de la ville.
Oui.
Mal-être d'être loin de ma famille. Mal-être d'habiter dans 27 mètres carrés. Mal-être de... Non, franchement, j'en pouvais plus. J'ai dit ok, il faut que je parte, et puis en plus de coup je faisais toujours la même chose. Je me suis dit non, c'est bon, tu vas pas rester à Paris pour travailler que dans la cosmétique, Marie.
Vous étiez en souffrance?
Ouais, j'étais très très malheureuse, hein. J'ai perdu énormément de poids. Déjà, vous voyez que là je suis pas très grosse. J'étais encore plus maigre avant. Non, c'était une descente aux enfers. Mais là, je me suis reprise en main. Donc, j'ai dit, allez, tu pars de Paris, retour au bercail et tu te reprends en main et ça va aller, quoi. Tu sais, t'as de la chance de faire ce que t'aimes. Donc, va pas tomber en burn-out alors que t'as trop, trop de la chance de faire de la photo et de pouvoir vivre de la photo.
Donc, vous revenez chez papa et maman ?
Je reviens chez papa et maman.
C'est chouette aussi.
Oui, c'est chouette. C'est sympa. Ben oui, c'est avoir un jardin.
Bon, même si c'est de jardin. Très jolis quartiers à Paris, mais voilà, c'est quand même pas... C'est pas Saint-Sauveur-la-Lande.
C'est exactement, c'est pas Saint-Sauveur-la-Lande.
Donc, vous revenez chez papa et maman avec du télétravail ou pas ?
Alors, du coup, j'ai gardé ma cliente de Paris, mais j'ai réduit très fortement on va dire le temps.
Vous poursuivez ce travail avec elle et vous prospectez ?
Alors là, ouais, je suis en pleine prospection.
Voilà.
Ouais, je suis en train de prospecter en ce moment dans la région. Alors, j'ai trouvé un client donc dans le vin. C'est le château de Viau à Morens, famille Bouddha-Sigana. Ouais, je travaille pour eux. Donc là, j'ai fait un premier shooting avec eux, qui s'est très très bien passé. Ils sont très satisfaits du résultat. Et ben, on va programmer un autre shooting d'ici peu. Donc je suis très contente.
Les photos sont très très belles. Hein.
Oui, ben, on les verra en plus dans l'article.
Ben, exactement, oui. Est-ce que c'est difficile de sublimer un verre de vin?
Ouais. Alors,
de faire ressentir, je dirais, des parfums imaginaires en regardant la photo.
Ce qui est compliqué, c'est les bouteilles. C'est extrêmement difficile. Je ne m'y attendais pas. Mais en fait, tout se reflète dans les bouteilles. Donc c'est beaucoup de patience quand on prend la photo. Toujours re-regarder ce qu'on fait avant de bouger la bouteille, parce que sinon, il faut tout recommencer. Parce que donc, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'il y a plusieurs photos qu'on peut mettre les unes sur les autres.
Oui, les fameux calques.
Exactement. Et donc du coup, bah, des fois, on peut tricher en fait. On dit, ok, il y a le reflet qui est là, ça me plaît pas. Bon, ok, cette partie-là, je vais l'effacer, mais je vais reprendre l'autre côté en photo et je vais le superposer. Comme ça, on verra plus rien. Voilà, la magie du montage. Mais oui, c'est vrai que c'est pas facile, surtout aussi bah, pour refaire ressortir les couleurs. Des vins, ça aussi, ils m'ont beaucoup répété... Il fallait que le vin il ait une certaine couleur et qu'il fasse exactement que ça respecte, parce que bah, bien sûr comme je vous ai dit, il faut absolument que le client puisse se projeter et voir ce qu'il achète, bah, c'est ce qu'il voit aussi en photo. On peut pas vendre un vin liquoreux par exemple, il est
transparent, qui est blanc transparent,
exactement.
Il faut vraiment qu'il ait cette couleur de miel et de
exactement, ou même le rosé, il peut pas être rose vif, il faut que ça soit un rose très très pâle, très presque rose gris quoi. Donc il faut qu'il puisse se distinguer de l'autre rosé qui est beaucoup moins sucré, et donc le client, il faut qu'il puisse se projeter avec ça. Ça du coup, c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris dans la joaillerie, parce que la joaillerie, il y a plein de couleurs de pierres différentes. Donc la retouche colorimétrique, ça c'est un truc que j'ai beaucoup beaucoup travaillé. Donc là-dessus, j'ai pas trop de problèmes, parce que sur Photoshop, c'est très simple, on a juste à sélectionner la bouteille,
la zone,
le verre, exactement, la bouteille ou le verre, et puis hop, avec des retouches de teinte, de saturation, mais il faut quand même avoir l'œil pour le faire. Parce que au début, c'est pas ça s'apprend en fait. Ça vient pas hyper naturellement comme ça. Faut passer beaucoup de temps, on regarde le produit, on regarde l'ordi. Après moi, ce que je fais, c'est que hop, j'arrête, je reviens dessus le lendemain. Parce que quand on est trop focalisé sur quelque chose, en fait, on voit plus correctement, bien. Enfin, la vision est un peu biaisée quoi.
Est-ce que ça n'a pas une incidence dans votre vie de tous les jours, le fait d'avoir ce regard?
Oui et non, on va dire, ouais.
Vous laissez reposer ce regard?
Oui, quand même, ouais, je le laisse quand même reposer.
Mais il y a quelque chose aussi que vous avez envie de développer, c'est la photo animalière, mais...
De la macro d'insectes, je ne sais même pas vraiment exactement. Alors,
pourquoi les insectes?
Parce que les insectes sont des choses extrêmement fascinantes. Déjà, c'est là où il y a le plus d'espèces différentes, plus d'un million d'espèces d'insectes différentes, alors que les animaux, donc ce qu'on connaît, les mammifères ou les oiseaux, il n'y en a même pas 10 000 de différentes. Donc non, les insectes, c'est la couleur, la texture, quand on les regarde de près, c'est juste magnifique. Mais ça m'est arrivé vraiment par hasard.
C'est-à-dire
quand j'ai reçu mon nouvel appareil photo, je suis allée faire un shooting test avec mon chien en promenade, parce que je voulais tester les capacités de l'appareil. Pleine saison de reproduction des libellules. Mais moi, je ne le savais pas. Donc, je vois des petites libellules partout à côté de la rivière. Je trouve ça magnifique. J'ai dit, bon, je vais essayer de prendre des photos de libellules. Et là, je me suis rendu compte que déjà, c'est super dur. Parce que les insectes,
ça
bouge hyper rapidement. Alors, j'avais pas l'objectif adapté du tout, mais j'avais quand même un très bon boîtier qui fait qu'on peut prendre des photos d'insectes, mais l'objectif, pas du tout, donc c'était quand même assez dur. Et j'ai vu quelque chose de fascinant que je connaissais pas, c'est que les libellules mâles, avant de se reproduire, elles s'agrippent sur la nuque des libellules femelles, et quand ils sont prêts à s'accoupler, alors ça c'était quand même un peu connu, mais ils font la roue, ça s'appelle la roue de la libellule, et ils forment un petit cœur. C'est magnifique. Et donc après, je me suis renseignée, parce que je voyais des petits crochets sur le bout de la libellule, Et en fait, oui, en effet, ça a des petits crochets donc au bout. Et c'est comme ça peut s'agripper. Et je me suis dit, waouh, c'est fascinant en fait. Et donc, j'ai commencé à me renseigner et j'ai vu que donc il y avait des photographes qui faisaient de la photo d'insectes, mais en version macro. Donc, c'est-à-dire que c'est comme si on regardait dans un microscope.
Oui.
Et on voit donc les détails de l'insecte. Donc, on peut voir jusqu'à tous ses petits poils. Les mouches, on voit toutes ses facettes dans les yeux. Enfin, c'est d'une beauté. Tous les animaux sont beaux, mais c'est encore plus beau qu'un lion, quoi, dans la savane. Donc, et puis, il y a encore plein d'insectes qu'on ne connaît pas. Donc, à l'avenir, ouais, j'aimerais bien uniquement me consacrer à la photo d'insectes. Et pourquoi pas travailler pour des scientifiques ou partir en expédition, ce genre de choses, quoi. Moi, j'adore me promener, j'adore la randonnée. Déjà, je suis fan de randonnée. Donc, oui, ce serait un bel objectif. Et puis... in fine, pourquoi pas faire des expositions, aller dans les écoles aussi, initier les enfants, que les insectes, bah, ça fait pas peur, c'est pas méchant.
Enlever cette phobie de l'insecte, de ce tout petit qu'on ne maîtrise pas.
Mais ouais. C'est exactement ouais. Ça. C'est que l'insecte, on ne le maîtrise pas. Et tout ce qu'on ne maîtrise pas, l'humain en a peur.
Ouais.
Mais c'est tellement dommage, les araignées. Des araignées, le nombre de gens je vois tuer les araignées, mais moi ça me brise le cœur. Parce que moi je me dis, cette petite araignée, bah, elle ressent des choses, elle vit sa vie. Alors oui, peut-être que ça n'a pas l'intelligence émotionnelle d'un chien, mais peu importe. Qu'est-ce que l'intelligence Voilà, il y en a 10 000, enfin bref. Laissez vos araignées chez vous, s'il vous plaît. Les araignées, ça tue les insectes du coup qui sont pas... Enfin, qui peuvent...
Nuire
à votre maison, et les araignées sont là pour...
Je trouve que vous êtes lumineuse quand vous parlez des insectes.
C'est vrai.
Ouais, c'est vraiment... On sent que c'est passionnel et...
Je trouve ça tellement dommage, en fait, qu'on ne s'intéresse pas à eux, alors que pourtant, on a tellement à apprendre des insectes. Mais moi, il y a plein de choses que je ne connais pas. Hein. Je suis très, très loin d'être une professionnelle des insectes. Hein. Mais je trouve que... Bah, je vais revenir à l'araignée, mais parce que c'est vraiment à coche-coche.
Les arachnophobes vont être contents.
Mais oui, mais en même temps, et je vous jure, les araignées, c'est vraiment très joli. J'ai vu plein de photos d'araignées, je trouve ça magnifique. Et Dieu sait qu'en plus, quand j'étais petite, même moi, j'avais peur des araignées. Quand j'en voyais une, je hurlais. Et pourtant, aujourd'hui, je trouve ça fascinant. La mouche, on la critique.
Mais elle voit de partout, la mouche.
Exactement, la mouche, elle voit de partout. Elle voit encore plus vite que nous quand les objets bougent, quoi. C'est pour ça qu'on n'a pas le temps de l'attraper, elle s'envole déjà. Elle a des petites griffes sur les pattes, elle peut s'accrocher partout, elle ne se décolle pas. Enfin non, il y a les fourmis qui soulèvent 10 fois plus que leur poids. Ça aussi, c'est très connu comme anecdote, mais non, c'est... Moi, ce qui m'intéresserait le plus, ouais, c'est livres, galeries, et surtout redonner une belle image, pouvoir l'exposer et le montrer aux gens et dire regardez.
Qu'il y ait une médiation autour de ça.
Ouais. Moi, je veux redonner un peu.
Revaloriser
l'insecte.
Parce que vous avez des chiens.
Oui.
D'ailleurs, on fait cette interview avec des chiens.
Oui.
C'est pour ça qu'on entend quelques petits bruits pendant que je suis en train de vous poser des questions. Est-ce que vous avez autant de plaisir aussi à prendre en photo
Oui, j'adore.
Oui.
J'adore quand je regarde les photos sur l'ordinateur. Après, je vois des petites expressions qui sont tellement mignonnes. En plus, ce sont mes chiens. Donc, ça me touche encore plus. Mais pendant un moment, je voulais arrêter complètement la photo de produit. Je me dis, ok, je fais que de l'animalier, que les animaux de compagnie. Bon, après, la réalité de la vie fait que c'est pas un marché qui fonctionne très très bien non plus. Mais en tout cas, j'adore. Oui, c'est tellement mignon. Surtout quand on voit juste une petite langue qui dépasse ou un petit regard fuyant parce qu'il a peut-être eu peur de quelque chose quand j'ai pris la photo. Enfin, c'est juste trop drôle.
Si vous deviez laisser une trace à travers votre travail photographique, quelle serait cette trace ?
Qu'on se souvienne, encore dans 20 ans dans quel monde on a vécu, et parce que les choses changent tellement vite qu'on oublie. On oublie beaucoup et on voit surtout on a l'impression que on n'a pas vécu ça. Quand par exemple je vois des photos d'à l'époque à laquelle vivait ma grand-mère, je me dis mais ça a vraiment existé, ça. Non, ouais, pour laisser une trace, en fait, pour que les gens se souviennent. Et surtout, les animaux qui, du coup, disparaissent. Y a plein de choses que ça se trouve dans 50 ans.
On ne verra plus.
On ne verra plus. Et pourtant, bah, ça a bien existé. Mmh. Et tout ça, pourquoi? Parce que nous, on a tout détruit. Et je trouve ça vraiment dommage. Mais après, je trouve qu'il y a une vraie prise de conscience. Il y a une nouvelle génération qui arrive.
Est-ce que j'allais vous demander, votre génération est plus impliquée sur le devenir de notre planète que les générations précédentes?
Bah, nous, on ne trouve pas que le plastique, c'est fantastique.
Oui, d'accord.
Voilà, donc oui, c'est sûr qu'il y a une prise de conscience. Après, je trouve que l'image a beaucoup trop d'importance maintenant,
oui.
Même si moi je veux qu'elle garde cette importance-là, mais je trouve qu'elle a de l'importance, mais dans le mauvais sens. Aujourd'hui, on fait beaucoup trop attention au paraître, à l'apparence. Donc oui, il y a une vraie prise de conscience écologique, mais je trouve que ça peut se contredire. Avec notre façon de consommer. C'est pas bon de garder 1000 mails dans
un cloud.
C'est pour ça que je pense qu'à mon avis, on a tous un voile devant les yeux. et puis on marche comme ça dans le noir à la velette. C'est dommage parce que la parole s'est libérée sur plein de choses. Mais pourtant, on est toujours en train de faire n'importe quoi, quoi. Et pourtant, je suis une jeune de 26 ans qui dit ça. Surtout qu'en plus, quand je suis allée à Paris, j'ai vu le mode de la consommation des jeunes, comment est-ce qu'ils vivent. Pour revenir à l'essentiel des choses, et ça, on l'a perdu. Et je pense qu'à mon avis, on l'a réellement perdu. Et je pense qu'à mon avis, ça, c'est... je vais être vulgaire, mais je pense que c'est foutu, quoi. Pour moi, c'est foutu. C'est trop tard. Là, on est dans un engrenage où... Alors, nous, on a commencé un peu la période téléphone. Moi, je suis pile dans cette transition. Au collège, le téléphone, c'était interdit. Les premiers téléphones, c'était les clapets. Alors, voilà, les clapets, la seule chose qu'on pouvait faire, c'est téléphoner et appeler. Sauf que le crédit du SMS, on n'avait le droit d'envoyer que de 50 SMS par mois. Mais quand je parle de ça aux filles, elles me disent, mais n'importe quoi, pas du tout. Maintenant, on peut envoyer des messages, machin, comme on veut, mais... Sauf qu'elles, elles ont grandi avec ça. Donc, elles pourront encore moins se détacher de ça. Et je pense que c'est à nous, du coup, futurs parents.
Ce que j'allais dire, ça va être votre rôle lorsque vous serez mère.
Ouais, ça sera à nous, futurs parents, de faire ce travail-là. Qu'il faut apprendre la bienveillance, en fait.
J'ai un vieux Polaroid qui va tirer une photo d'un moment qui a marqué votre vie. C'est lequel? Pour que vous gardiez cette image, toujours.
Eh bien, écoutez, on n'en a pas parlé, mais j'ai fait de l'équitation pendant très longtemps. Je suis presque née sur un cheval et je suis allergique aux poils de chevaux. Et ça s'est arrêté brutalement, comme ça, du jour au lendemain. Et donc, une image que j'aimerais garder, c'est quand j'avais ramené mes chevaux à côté de chez moi et que je partais en balade avec ma petite sœur, donc qui avait son poney, et moi mon cheval. Et nous, en train de galoper dans la prairie, les mains en l'air et les chevaux hyper contents. Parce que ça, c'est une image, je ne sais pas si un jour je la reverrai.
Oh, c'est très émouvant. Je suis désolée d'avoir réveillé ce souvenir qui doit être très douloureux.
Ça a été douloureux pendant un moment, mais maintenant, ça ne l'est plus.
Oui.
Ouais. Mais ça fait 10 ans maintenant. La dernière fois que je suis montée sur mon cheval, ça remonte à 14-15 ans. Mais c'est pour vous dire que ça remonte à très longtemps, et j'ai toujours fait de l'équitation depuis toute petite. J'aurais bien voulu en faire mon métier, mais bon, c'est comme ça. Je suis photographe maintenant, je vis d'un autre rêve.
Je vous souhaite vraiment le meilleur, Marie.
Merci beaucoup.
Et je pense qu'on se retrouvera peut-être dans très très peu de temps.
Ben oui, comme ça. Qui sait, quand je commencerai à faire des photos d'insectes, on reviendra pour en parler.
Pour une exposition ou un livre.
Pourquoi pas, ça serait génial. Merci à vous surtout.